Vous écoutez On lit pour vous.
Une application de contraception fait débat, un texte de Florence Provencher, paru le 4 août 2024 dans la presse. L'application Natural Cycles, approuvée comme méthode contraceptive par Santé Canada, suscite l'inquiétude. En quoi consiste ce produit numérique? Et pourquoi des femmes choisissent-elles de l'utiliser? Décryptage. Qu'est-ce que Natural Cycles? Natural Cycles est le seul produit numérique qui soit un dispositif médical pour la contraception, explique la cofondatrice et PDG de l'application, la docteure Elina Berglund-Scherwitz. Sur le site web, l'application est décrite comme une façon non hormonale et non invasive de prendre le contrôle de sa fertilité. Santé Canada a approuvé le produit numérique comme méthode contraceptive en décembre dernier, quelques années après la Food and Drug Administration aux États-Unis, 2018. En mai 2024, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, SOGC, a pris position par rapport à l'application et à son efficacité. Elle prévient notamment qu'il n'y a aucune étude sur Natural Cycles qui a été réalisée au Canada et qui l'a comparée aux contraceptifs hormonaux dans le cadre d'essais cliniques scientifiquement rigoureux. Comment ça marche? L'algorithme de Natural Cycles s'appuie sur des données comme la température basale du corps pour tenter de prédire l'ovulation et la période de fertilité des utilisatrices. La température basale peut être prise à l'aide d'un thermomètre, d'une Apple Watch ou d'un anneau Oura, une bague intelligente qui recueille des informations sur la santé. Avec le thermomètre, il est nécessaire de prendre sa température soi-même dès le réveil, 4 à 5 jours par semaine, précise la docteure Berglund-Scherwitz, tandis que les données s'insèrent par elles-mêmes dans l'application avec une Apple Watch ou un anneau Oura. Les jours où vous êtes fertile ou pourriez l'être, vous obtenez un jour rouge et vous devez utiliser une protection si vous voulez éviter une grossesse, explique la docteure Berglund-Scherwitz. Des jours verts sont donnés lorsque l'algorithme considère au contraire que l'utilisatrice n'est pas fertile. L'abonnement à Natural Cycles au Canada est vendu à $13,99 par mois ou $99,99 par année. Pourquoi l'application est-elle au cœur d'une controverse? Dans un reportage publié à la fin de juillet 2024, Radio-Canada a révélé que Santé Canada avait homologué Natural Cycles sans exiger de l'entreprise qu'elle prouve son efficacité en soumettant des données probantes. Il rapporte notamment le cas d'une femme qui est tombée enceinte en utilisant le produit. L'homologation a été accordée sur la base d'une attestation par le fabricant que cet instrument médical rencontre toutes les exigences de sûreté et d'efficacité qui s'appliquent, se défend Santé Canada dans un courriel obtenu par la presse. Le fabricant de l'application Natural Cycles n'a pas eu à présenter des données probantes à Santé Canada aux fins d'examen, car cela n'était pas requis dans ce cas. Le processus d'approbation de Natural Cycles par Santé Canada n'était pas différent de celui d'autres dispositifs médicaux de même classe, tels que les préservatifs, précise la responsable des communications de Natural Cycles, Laureen Anafin, par courriel à la presse. Natural Cycles a notamment soumis à Santé Canada son mode d'emploi, qui fournit un aperçu détaillé du produit, ainsi qu'un résumé complet des études cliniques démontrant l'efficacité, ajoute-t-elle. 7 des 13 articles de la revue de littérature pour cette déclaration ont été financés par Natural Cycles ou ont été rédigés par des employés de la société Natural Cycles, ce qui peut fausser les conclusions de ces articles, prévient la SOGC dans sa prise de position. L'application est-elle efficace? Pourquoi les experts sont-ils inquiets? Natural Cycles serait efficace à 93% dans le cadre d'une utilisation normale, ce qui signifie que 7 femmes sur 100 par an tombent enceintes, affirme la docteure Berglund-Scherwitz, ce qui serait semblable à la pilule contraceptive, mais supérieure au préservatif. L'efficacité monterait à 98% avec une utilisation parfaite, ce qui signifie de s'abstenir de tout rapport sexuel non protégé lors d'un jour rouge, précise la PDG. Les données limitées dont nous disposons suggèrent que les méthodes de contraception fondées sur la connaissance de la fertilité comme Natural Cycles ne sont pas plus efficaces que les contraceptifs hormonaux disponibles pour protéger contre les grossesses non désirées, explique la docteure Céline Desjardins, obstétricienne gynécologue, retraitée et membre du comité de la SOGC, ayant pris position. La SOGC estime que des études indépendantes sont nécessaires pour valider la prétention de l'application d'avoir un taux d'efficacité similaire à celui de la pilule contraceptive, selon son site web. La docteure Desjardins rappelle d'ailleurs qu'en 2024, 50% des grossesses au Canada sont encore non planifiées. Ce sont les méthodes à longue durée d'action, comme le stérilet ou l'implant, qui sont les plus proches de la perfection, puisque ce sont des méthodes contraceptives pour lesquelles il ne peut pas y avoir d'oubli. Le stress peut aussi avoir un impact sur le cycle menstruel et jouer des tours, ajoute-t-elle. De plus, l'application indique qu'un mois de suivi du cycle menstruel est suffisant pour l'utiliser en toute confiance, mais la docteure Desjardins conseille plutôt de suivre au moins 6 cycles avant d'utiliser une méthode comme Natural Cycles. Puisque ce ne sont pas toutes les femmes qui ont un cycle menstruel régulier, le risque reste élevé, après un mois d'usage, qu'une grossesse puisse arriver, surtout si la dame n'utilise pas un moyen de protection barrière comme un préservatif, et ce, à toutes les activités sexuelles pendant tout ce cycle, explique-t-elle. Toute méthode de contraception, tant que c'est celle qui convient le plus à la personne qui désire l'utiliser, a des risques et bénéfices, soutient la docteure Geneviève Bois, médecin de famille, pratiquant principalement en santé des femmes. Tout dépend de notre niveau de tolérance du risque. La docteure Bois soulève toutefois qu'une grande partie du marketing de Natural Cycles semble se faire en payant des influenceurs sur TikTok. Elle affirme que c'est difficile comme médecin de voir que les gens obtiennent leurs informations de soins de santé sur TikTok, où la qualité et la diversité des informations qu'on retrouve sont parfois extrêmement problématiques. Qu'en dit Natural Cycles? Selon la docteure Berglund-Scherwitz, l'application utilise des méthodes statistiques complexes pour déterminer les différences entre le stress et le sommeil, d'une part, et l'ovulation, d'autre part. La cofondatrice précise également que l'algorithme ne suppose rien sur le cycle de la femme, tient compte de la prise de contraception hormonale passée et n'accorde pas de jours verts tant qu'il n'y a pas d'ovulation. Quant au marketing, la PDG réplique qu'elle ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de choses sur Natural Cycles, sur TikTok en particulier. Pourquoi des femmes utilisent-elles Natural Cycles? Alicia Rodrigue, étudiante de Québec de 23 ans, utilise Natural Cycles depuis 2 ans et elle a acheté l'anneau Oura il y a 6 mois. Quand j'avais le thermomètre, j'avais beaucoup plus de jours rouges dans l'application qui disait d'utiliser de la protection, indique-t-elle. Puisqu'elle l'utilise depuis quelque temps, elle affirme que l'application connaît bien son cycle menstruel. Elle aime également que la plateforme l'informe des symptômes qu'elle pourrait ressentir au fil de son cycle menstruel, comme des migraines. Pour sa part, Joannie Cyr, tatoueuse de 28 ans de Saint-Jérôme, a utilisé le produit numérique dans la dernière année et demie, autant comme méthode de contraception que pour planifier une grossesse. L'application vient vraiment te dire que, de tel jour à tel jour, tu es à risque de tomber enceinte, ce qu'elle trouve pratique étant donné que les femmes ne sont pas toujours fertiles, explique-t-elle. Avant de tomber enceinte, elle prenait sa température avec le thermomètre, qu'elle considère comme extrêmement précis, puisqu'il est à 2 décimales. Joannie Cyr se dit toutefois consciente que l'usage de Natural Cycles comporte des risques. Elle le conseillerait moins à une personne célibataire sans partenaire sexuel stable. C'était une application de contraception fait débat, un texte de Florence Provencher, paru le 4 août 2024 dans la presse.
Les auteurs de Star Trek avaient-ils raison? Un texte d'Éric Vaillancourt, paru le 29 juillet 2024 dans la presse. Éric Vaillancourt est formateur en intelligence artificielle chez Technologia.com. Voici son point de vue. Star Trek a toujours été une source d'inspiration et d'anticipation technologique. Les communicateurs de l'équipage de l'Enterprise ont inspiré les téléphones portables, les PADD, ont préfiguré nos tablettes modernes et les ordinateurs de bord de la série ont influencé le développement des assistants virtuels comme Siri et Alexa. Les traducteurs universels de la série se manifestent aujourd'hui à travers des applications de traduction instantanée et les holodecks ont jeté les bases de la réalité virtuelle. Même les avancées en imagerie médicale et en biotechnologie trouvent des parallèles dans les tricordeurs médicaux de Star Trek. À travers ces exemples, nous voyons comment une série de science-fiction a non seulement prévu, mais aussi stimulé le développement de technologies cruciales de notre époque. L'abolition de l'argent dans Star Trek, une vision utopique. Dans l'épisode The Neutral Zone de Star Trek, The Next Generation, on nous présente une vision radicalement différente de l'économie. Ralph Offenhaus, un financier du XXe siècle, ressuscité dans le futur, est déconcerté par l'absence de monnaie. Le capitaine Jean-Luc Picard lui explique que l'humanité a évolué au-delà de l'argent et de l'accumulation de richesses matérielles. Dans ce futur, les individus travaillent pour s'améliorer eux-mêmes et pour le bien de la société dans son ensemble. Cette idée pourrait sembler utopique, voire irréaliste, pour nous qui vivons dans un monde où l'économie et les motivations personnelles sont largement dictées par l'argent. Mais elle soulève une question essentielle. Dans un avenir où l'automatisation et les avancées technologiques rendent le travail humain de plus en plus obsolète, comment notre paradigme économique devra-t-il évoluer? Un changement de paradigme nécessaire. Le paradigme actuel, centré sur l'accumulation de biens matériels et la recherche de profits, montre ses limites face à l'automatisation croissante. Si les machines peuvent produire et distribuer les biens plus efficacement que les humains, quelle place reste-t-il pour le travail humain? Et si les opportunités de travail diminuent, comment assurer une répartition équitable des ressources? L'automatisation a un effet significatif sur l'emploi au Québec. Voici quelques statistiques et informations clés. Possibilité de perdre son emploi? D'après une étude du Conference Board du Canada, environ 42 % des emplois au Québec pourraient être remplacés par des machines d'ici 2035. Groupe vulnérable. Les travailleurs plus âgés, 55 ans et plus, ceux qui n'ont pas de diplôme postsecondaire et ceux qui travaillent dans des domaines comme la fabrication et le soutien de bureaux font partie des plus menacés. Type des tâches. Les tâches analytiques et interpersonnelles qui requièrent des capacités cognitives non routinières deviennent de plus en plus essentielles. En revanche, les tâches manuelles routinières sont plus faciles à automatiser. J'ai passé ma vie à me créer de la richesse. Je suis fière d'avoir aidé mes enfants à acheter leur maison. J'ai payé la mienne 65 000 $ en 1989, alors que je gagnais 35 000 $. C'était dur à l'époque, mais c'est encore pire pour les jeunes aujourd'hui avec les prix qui explosent. La pandémie a aggravé l'inflation, et pas seulement pour les maisons. Notre société encourage la possession et le mérite individuel. Mais face à la technologie et à l'automatisation, il faut repenser ces valeurs et chercher des solutions plus justes et solidaires. L'idée d'une société post-monétaire où l'accent est mis sur l'amélioration personnelle et le bénéfice collectif pourrait être une solution viable. Mais cela nécessiterait un changement profond dans nos valeurs et nos structures sociales. Darwin a montré que l'adaptation est la clé de la survie. De même, notre société devra s'adapter à ces nouvelles réalités économiques pour éviter des inégalités croissantes et des tensions sociales. Le rôle des gouvernements dans cette transition? Nos gouvernements jouent un rôle crucial dans cette transition. Ils doivent gérer l'équilibre social et les opportunités économiques, mais aussi anticiper les défis posés par l'automatisation et la diminution des emplois traditionnels et y répondre. Les politiques publiques devront être axées sur la redistribution équitable des ressources, l'accès universel à l'éducation et à la formation continue, et le soutien aux initiatives visant à améliorer le bien-être collectif. L'instinct de survie peut pousser des personnes qui, autrement, ne s'y livreraient pas, à commettre des actes désespérés pour subvenir à leurs besoins. Ainsi, il est essentiel que les gouvernements créent des filets de sécurité robustes pour prévenir la marginalisation et offrir des solutions de rechange constructives. Cela inclut des programmes de revenus de base universels, des initiatives de reconversion professionnelle et des investissements dans des secteurs émergents qui peuvent offrir de nouvelles opportunités d'emploi. Des choix de société cruciaux. Nous devons nous préparer à des choix de société importants. Si l'automatisation continue de réduire la nécessité du travail humain, nous devrons envisager d'autres systèmes de distribution des ressources et de valorisation des contributions humaines. La vision de Star Trek, où l'argent est aboli et où chacun travaille pour le bien commun, pourrait offrir une voie vers un futur plus équitable et épanouissant. Les auteurs de Star Trek avaient-ils raison? Peut-être que oui. Leur vision audacieuse nous pousse à reconsidérer nos propres structures économiques et sociales à la lumière des avancées technologiques. En nous adaptant et en réinventant nos valeurs, nous pourrions bien trouver notre propre chemin vers une société plus juste et harmonieuse. C'était « Les auteurs de Star Trek avaient-ils raison? » Un texte d'Éric Vaillancourt, paru le 29 juillet 2024 dans La Presse.
La valorisation de notre répertoire pour mieux se lier les uns aux autres. Un texte de Jade Bruneau, paru le 23 juillet 2024 dans Le Devoir. Jade Bruneau est comédienne, metteuse en scène et directrice artistique du Théâtre de l'Œil ouvert. Voici sa réplique à la lettre de Mélissa Anctil, « L'époque est au recyclage culturel », paru dans Le Devoir. Il m'apparaît essentiel de répondre à la question posée. Que gagnons-nous à faire revivre des œuvres, des personnages ou des époques de notre patrimoine? Nous avons tout à gagner. Ailleurs dans le monde, on valorise l'histoire et le patrimoine national avec une grande fierté. Ici, au Québec, nous sommes trop souvent coincés dans ce manque d'estime collectif et cette idée d'être né pour un petit pain. La revalorisation de notre histoire et de notre répertoire est toujours à recommencer. Il m'apparaît alors plutôt positif de constater que nous commençons à voir apparaître une tradition, une culture, un répertoire, des classiques. On joue encore Molière depuis 1680 partout dans le monde. Je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas de jouer Tremblay ici, qui raconte non seulement tout un pan de notre histoire, mais aussi la réalité des femmes du Québec à travers 50 ans d'enjeux qui ont malheureusement traversé le temps et qui sont encore trop souvent actuels. Au cinéma, pendant le film « Nos belles-sœurs », on peut entendre dans la salle des « Non ! Elles ne vont pas lui voler ses timbres !» Et oui, il ne faut jamais tenir pour acquis que tout le monde connaît la fin du Titanic. Selon cette perspective, il est tout indiqué de revisiter nos œuvres et d'actualiser celles-ci pour offrir à toutes les générations des bribes de notre histoire culturelle et sociale. Pensons surtout aux plus jeunes qui construiront leurs connaissances culturelles et historiques au gré des influences qui les entourent. Souhaitons-nous être liés les uns aux autres? Souhaitons-nous être liés de façon intergénérationnelle? En tant qu'artiste, il est possible d'influencer les générations à venir pour ne pas perdre la richesse de notre langue québécoise et de notre patrimoine encore méconnu. Personnellement, en tant qu'artiste, je cherche à diminuer la polarisation pour trouver des chemins de traverse qui puissent mettre en avant notre histoire collective et générer la discussion, l'ouverture et l'inclusion par de petits moments de magie et d'émotion qui nous ramènent tous à notre condition humaine et qui nous place parfois devant les injustices collectives de notre passé pas toujours glorieux. Faire des liens entre les erreurs du passé, les batailles d'hier et les formes irrésolues d'assouvissement actuel de notre société, c'est s'ancrer dans du solide pour revendiquer une continuité identitaire qui puisse évoluer sinon se remettre en question. Le fil conducteur d'une société qui se porte bien et dont la culture est en phase avec ses citoyens s'attache à sa capacité à se lier les uns aux autres autour de références communes. Celle-ci crée des ponts en tissant, malgré toutes nos différences individuelles, des lieux symboliques de rencontres collectives remplis de souvenirs éclatants qui nourrissent un sentiment de plénitude, même pour un bref instant, permettant ainsi une qualité d'échange en toute sécurité, où tous et toutes peuvent s'exprimer librement, le cœur au vent. Des modèles. Quand on évoque du réchauffé en parlant de création 100% québécoise comme la géante, je ne suis pas certaine de trouver là un réel argument. Qui d'autre que des artistes québécois prendront en charge la valorisation de notre répertoire? Netflix? Amazon? De surcroît, en tant que femme artiste, je me fais un devoir de mémoire de raconter l'histoire de celles qui sont venues avant moi pour donner l'élan et le souffle à celles qui viendront après. C'est lorsque l'on comprend d'où l'on vient que l'on peut mesurer où nous sommes rendus et réfléchir à où l'on veut aller. En présentant des créations originales inspirées de l'histoire et du legs de Clémence Desrochers, Clémence, de Diane Dufresne, Belmont, de Marie-Joseph de Corriveau, la Corriveau, ou encore de Rose Ouellette, la Poune, la Géante, on offre aussi aux plus jeunes des modèles inspirants qui, bien qu'elle ait parfois existé il y a un siècle, ne sont pas si loin de nous aujourd'hui. Lorsque nous aurons atteint l'égalité entre les hommes et les femmes, à ce moment seulement, il sera possible de percevoir le tout comme étant du radotage. Mais pour parvenir à cette éventuelle totale émancipation, il nous faudrait au moins connaître un peu mieux nos pionnières. Les histoires d'hier sont aussi, souvent, un des meilleurs chemins pour parler d'aujourd'hui et de demain. C'est une porte d'entrée pour mettre en relief le climat actuel. Nous venons tout juste de traverser une pandémie et il nous faudra encore plusieurs années pour guérir les blessures insidieuses et profondes qu'elle a laissées. Nous devons réapprendre à vivre ensemble avec bienveillance et sans mépris. Selon moi, un besoin de rassemblement viscéral combiné à une envie de retrouver un sentiment d'appartenance est aussi au cœur de ce nouveau courant créatif. Je crois qu'il est donc important de démystifier l'impact d'un spectacle élevant qui mobilise différentes générations à une œuvre feel-good. En terminant, j'aimerais démystifier la création inspirée de, comme du réchauffé ou du recyclage. Tout le monde influence et est influencé. Nos créations sont toujours la somme de nos influences, de nos connaissances, de nos expériences, de nos envies et de nos sensibilités. Le Roi Lion, par exemple, est une réinterprétation de Hamlet. Quand on fait un spectacle comme La Géante, on s'inspire de Rose Ouellette pour créer un nouvel univers, pour dire d'une autre façon des choses qui nous paraissent encore essentielles à raconter. Nos imaginaires individuels sont remplis de nous tous et toutes d'hier et d'aujourd'hui pour s'agglutiner dans un grand « nous » à l'imaginaire collectif plus grand que le cumul de chacun de nos petits nombrils respectifs. C'était la valorisation de notre répertoire pour mieux se lier les uns aux autres. Un texte de Jade Bruneau, paru le 23 juillet 2024 dans Le Devoir.